OK, on va commencer notre 85e leçon dans notre série sur la théologie systématique. Ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder certains textes des Écritures qui semblent favoriser la rédemption universelle et on va en faire une réfutation, mais une réfutation qui est assez sommaire, on n'ira pas en détail, parce que dans le fond, le but, c'est pas ça, c'est de démontrer, dans le fond, qu'il existe une multitude de versets qui peuvent porter à problème, qu'on a, il y a des réponses qui existent pour chacun des versets. Et là, on va voir des explications très sommaires, mais ceux qui veulent aller plus loin, il n'y a aucun problème, on peut leur fournir du matériel pour aller plus loin. Alors, dans les dernières leçons, on avait étudié brièvement la doctrine de la rédemption par Christ, et on avait regardé aussi les causes. On avait continué notre étude sur la rédemption en étudiant, en examinant les objets de la rédemption dans notre dernière leçon. Aujourd'hui, on va compléter l'étude sur la rédemption en examinant les textes bibliques qui semblent favoriser une rédemption universelle pour les harmoniser avec les textes de la rédemption particulière et expliquer les apparentes contradictions. Alors, dans le premier point, ce qu'on va faire, on va regarder les différents textes qui utilisent les mots « tout », T-O-U-T, ou « tous » au pluriel. Alors, on va voir que dans différents endroits des Écritures, le mot « tous » ne veut pas toujours dire l'universalité complète. Il y a dans les Saintes Écritures des versets où le mot où les mots « tout » ou « tous » sont utilisés dans le cadre de l'œuvre de rédemption par Christ. Alors, il faut examiner toujours le contexte du livre, le contexte immédiat, les versets avant, les versets après, le chapitre, le livre, et ensuite regarder l'ensemble de ce que les Saintes Écritures enseignent sur le même sujet. Alors, on va regarder un verset qui semble justement aller dans le sens de la rédemption universelle, Luc 2, versets 10 et 11. « Mais l'ange leur dit, « ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Alors, voyez-vous, dans le verset 10, ça dit « pour tout le peuple ». Alors, on sait très bien que ce n'est pas tout le peuple juif qui a été sauvé, mais il nous dit que ça va être un sujet de joie pour tout le peuple, et qu'il leur est né un sauveur, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tout le peuple d'Israël était sauvé pour autant. Voyez-vous, il y a un exemple de où le mot « tout » ne veut pas nécessairement dire l'ensemble du peuple d'Israël. Le verset 10 semble indiquer que le sauveur mentionné au verset 11 est pour tout le peuple en général, mais un examen plus minutieux du passage nous montre que l'ange s'adressait aux bergers, donc au peuple de Dieu, et aux élus de la nation d'Israël. Nous devons tenir compte de ce que les Écritures disent dans d'autres parties de la Bible pour harmoniser le passage, car la Bible ne se contredit pas. Voyons quelques exemples. Matthieu 1, versets 20 et 21. Alors ici, dans le contexte, c'est Joseph qui s'apprêtait à vouloir dire à sa femme que, bon, tu es enceinte, je te rejette. Alors, comme il y pensait, ça dit, « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Voyez-vous, dans le contexte ici, ça dit qu'il sauve son peuple. Alors, le peuple de Dieu, c'est les élus du peuple juif de l'Ancien Testament et les élus qui faisaient partie de l'ensemble des nations du monde de toutes les époques. On a Isaïe 53 aussi, verset 8. Ici, dans le contexte, c'est une prophétie qui parle de Christ. « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants ?» et frappé pour les péchés de mon peuple. Voyez-vous, ça ne dit pas les péchés du monde, ça dit les péchés du peuple, de son peuple à lui. Hébreux 2, 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. On a aussi l'autre verset dans Jean 1, verset 7. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Voyez-vous, encore une fois, le mot « tous » est utilisé. Est-ce que quand Jean-Baptiste est venu, tous les Juifs ont cru? Non. Alors, ça veut tout simplement démontrer que parfois, le mot « tous » n'est pas toujours universel. Alors, le passage nous parle de l'obligation que les Juifs devaient avoir. Ils devaient avoir la foi historique de l'apparition du Messie. Ils avaient l'obligation de donner crédit au ministère extérieur. Parce qu'en anglais, on utilise des « outward ». Alors, quelqu'un peut prêcher devant 1000 personnes et il va dire le message de l'Évangile, puis au-dessus de, je sais pas, disons 1000 personnes, il va en avoir 980, que ça leur passe 6 pieds par-dessus la tête, ça rentre par l'oreille, ça sort par l'autre. Puis il va en avoir 20, que ça va les toucher. Pourquoi? Parce que les Écritures parlent d'un appel extérieur. Ça, c'est la prédication. Les Écritures parlent aussi d'un appel intérieur. Quand le Saint-Esprit vient régénérer la personne, à ce moment-là, elle est attentive à ce qui est dit. Et là, à ce moment-là, Dieu permet que, à cause de sa nouvelle naissance, il est maintenant capable d'apprécier d'abord son état de perdition, ensuite qu'il y a une solution et que sa solution est dans son Fils Jésus-Christ, parce qu'il a payé à sa place la punition qu'il aurait dû subir, qu'il a accompli aussi la loi à sa place. Alors, il y a le ministère extérieur de la parole de Dieu, et le reste des évangiles nous démontre que ce ne sont pas tous les Juifs qui crurent que le Messie était venu, selon le témoignage de Jean-Baptiste. Alors, je pense que c'est des passages assez faciles de voir que le mot « tout », exactement comme quand nous, on a un groupe d'amis, puis on dit « Ah, tout le monde était là ». Est-ce que ça veut nécessairement dire que ça veut « tout le monde entier était là » ou même « tout ton petit monde était là » Des fois, « tout », ça ne veut pas toujours dire « tout ». Alors, il faut faire attention dans les Écritures, quand on voit le mot « tout », de ne pas en conclure nécessairement que c'est universel. Il faut regarder le contexte. Et il faut regarder aussi l'ensemble de ce que les Écritures enseignent sur le même sujet. Jean 12, verset 32. Et moi, ici c'est le Seigneur qui parle. Il dit, moi, quand j'aurai été élevé de la terre, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de parler de sa crucifixion. Il dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Est-ce qu'au cours de l'histoire, c'est la majorité des hommes ou un petit nombre qui est venu au salut? Alors, il dit, j'attirerai tous les hommes, mais c'est sûr que dans le contexte, ça ne peut pas vouloir dire tous les hommes, parce que toute l'histoire de l'Église, l'histoire même dans la Bible, dans le Nouveau Testament, si tu regardes dans le temps que Jésus est venu, quand il est parti, il y en avait 120, et après ça, il y en a eu plusieurs milliers qui ont été sauvés, mais c'était quand même pas la majorité du peuple juif. Alors, les Juifs de l'époque croyaient que le salut ne s'adressait qu'à eux de façon exclusive. Le passage nous instruit sur le fait que le salut était à la fois pour les Juifs élus et les gentils élus. D'autres passages nous indiquent que seuls ceux que le Père attire viendront à lui. Voyez-vous, le Seigneur Jésus dit, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Là, tu vas dans un autre passage, dans Jean 6, 44, il dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Voyez-vous, on parle toutes les deux d'attirance. Là. Christ, il dit, « Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Puis il y a un autre passage qui dit, « Le Père, personne ne va venir au Seigneur Jésus-Christ sans que le Père ne l'ait attiré. » Alors, « Et je le ressusciterai au dernier jour. » Romains 5, verset 18. Alors, c'est sûr que là, on fait un tour très bref de certains versets. On n'essaie pas de les expliquer en profondeur, c'est juste, je vous donne un résumé très bref. Si quelqu'un a un problème avec un de ces versets-là, à ce moment-là, il faut qu'il aille chercher des outils pour se faire expliquer les choses en profondeur, et beaucoup de théologiens les ont fait. Dans le fond, ici, c'est juste comme une vue d'ensemble pour démontrer qu'il ne faut pas avoir peur quand on voit un verset qui semble qui semble ne pas s'harmoniser avec l'ensemble de la doctrine. Romains 5, 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alors, il dit ici, tout le monde est hérité de la nature pécheresse à cause de l'acte d'Adam. Après ça, il dit, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Est-ce que tout le monde a été justifié? Non. Alors ici, c'est sûr que le mot « tous », tous les hommes, ne peut pas vouloir dire l'ensemble de l'humanité. Pour bien interpréter le verset, nous nous devons de bien situer le verset dans son contexte. Nous nous devons de se rappeler que Paul parle ici des rôles respectifs d'Adam et de Christ comme représentants de leur race respective. Et on l'a dans Romains 5, 17. Voyez-vous, quand on parle, on voit un verset, ça a l'air de vouloir dire la justification de tous les hommes. Si on fait juste regarder un verset avant, on voit tout de suite la réponse, on a la réponse à notre affaire. Si par l'offense d'un seul, qui Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alors, il est en train de parler qu'il y a eu un premier Adam, premier homme de la terre, il y a eu un second Adam, qui était Jésus. De la même manière que tous les hommes ont tombé en Adam, ceux qui seront justifiés en et par Christ. Donc, c'est deux représentants. Il faut voir ça comme deux représentants, sinon on fait dire à la Bible des choses qu'elle ne dit pas. Romains 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Dieu justifie les élus sur la base que leur représentant, c'est-à-dire Christ pour les croyants, a rempli les conditions de leur justification. Il y en avait deux conditions. Avoir subi leur châtiment à leur place et avoir aussi obéi parfaitement au décalogue et aux autres lois pour les Juifs, encore une fois, à leur place. Deux choses. Dieu, le Père, demandait que chaque être humain, pour pouvoir vivre en sa présence, ait obéi au décalogue pour l'ensemble des nations et pour les Juifs, avoir non seulement obéi au décalogue, aux 10 commandements, mais il fallait qu'il ait aussi obéi à l'ensemble des lois cérémonielles et civiles des Juifs. Quand Jésus est venu, il a non seulement obéi au décalogue à la perfection, il n'a jamais péché, ni en pensée, ni en parole, ni en action, ni en omission, ni en aucune forme de faute. Et ça, c'est fait à notre place. Ce que Dieu exigeait de nous, il n'y a aucune personne qui a jamais été capable de le faire, puis il n'y a jamais aucune personne qui sera jamais capable de le faire non plus. Parce qu'on est avec une nature pécheresse, et dès qu'on a une chance, on pêche autour de bras. Même aujourd'hui, je suis sûr que tous ceux qui sont autour de la table, c'est ton péché. D'une façon ou d'une autre, on a péché. Alors, il y avait deux choses. Donc, si ce n'est pas nous qui l'accomplit, la loi, à la perfection, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à notre place, sinon on n'entrera pas dans le ciel, on ne vivra pas dans la présence du Père. Et l'autre condition, c'était d'avoir subi le châtiment qui était rattaché à la désobéissance de la loi. La loi, c'est le décalogue, c'est les 10 commandements. Dieu demandait une obéissance parfaite, absolue, jamais avoir manqué une seule fois. Et vu qu'on a manqué des centaines, des milliers, peut-être des centaines de milliers, puis peut-être des millions de fois, à ce moment-là, la punition de chacun était directement proportionnelle au nombre de fautes qu'il a fait. Alors, l'enfer que quelqu'un se devait de subir n'était pas le même pour tous, mais pour être sauvé, il faut que si c'est pas toi qui payes pour les péchés que tu as commis et pour la faute que tu avais commis en Adam, parce qu'on a nos péchés actuels et on a le péché qu'on avait hérité d'Adam, parce que la parole nous dit dans Romains 5, 12 qu'en Adam, nous étions en Adam et nous péchions en quelque sorte en lui. Alors à ce moment-là, il fallait que quelqu'un qui ait payé pour toutes ces fautes-là. Quand quelqu'un est sauvé, ça veut dire que Christ, sur la croix, a payé pour l'ensemble de ses fautes, il a expié, il a détourné la colère de Dieu sur Christ alors que lui était parfaitement innocent. Et ayant fait payer au Christ ce que nous aurions dû subir, il était en mesure, lui, de le faire volontairement, de transférer sa justice parfaite, c'est-à-dire son obéissance parfaite au décalogue, de le mettre sur notre compte, ce qu'on appelle en théologie l'imputation. Il a pris nos péchés, il les a mis sur le compte de Christ. Le Père, il les a fait payer. Après que tout ça a été payé, il a pu prendre sa justice, l'accomplissement parfait de la loi, il a pu le mettre sur notre compte. Comment Dieu nous voit aujourd'hui quand on est des véritables croyants? Dieu nous voit comme nos péchés, l'ensemble de nos péchés. Le péché originel qu'on a en naissant et l'ensemble des péchés actuels qu'on a actualisés dans nos vies a été payé par Christ sur la croix. Il a subi notre châtiment à notre place. Mais il a aussi accompli la loi à notre place. Voyez-vous, c'est d'une importance. Quand ça dit « Qui accusera les élus de Dieu? » Un élu de Dieu, c'est un véritable saint, un véritable croyant. Il dit « C'est Dieu qui justifie. » Pourquoi Dieu peut faire tomber sa grosse masse de juges et de dire de chacun d'entre nous qui sont les croyants, « Un tel est juste. » Est-ce que je suis juste parce que j'ai fait beaucoup de bonnes actions dans ma vie? Seigneur, il a regardé ça, puis il a fait la somme. Il dit, oh, OK, lui, il en a fait plus que de mauvaises, donc je lui accorde le salut. Ça ne marche pas de même. Tout est en Jésus-Christ. Alors, c'est lui qui nous justifie. Ésaïe 45, versets 24 et 25. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Voyez-vous, ici, on peut dire tous les descendants d'Israël. Bon, on sait très bien que ce n'est pas tous les Juifs qui ont été sauvés. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que le texte est en train de nous dire? Il y a un autre passage dans le Nouveau Testament qui dit « Ce ne sont pas tous ceux qui sont d'Israël qui sont Israël. » Voyez-vous, il est en train de dire que ce n'est pas l'ensemble des Juifs qui est le véritable Israël de Dieu. Le véritable Israël de Dieu, c'est l'ensemble de tous les élus de la race juive qui ont été sauvés dans l'Ancien Testament et qui continuent d'être sauvés dans le Nouveau. Mais le Seigneur a étendu son salut aux nations, aux gentils, comme ils appellent, et à l'intérieur de toute cette masse d'hommes-là, il en a choisi un nombre précis, immuable, qui, eux, ont été placés en Christ dans toute éternité. Et l'Israël de Dieu, c'est l'ensemble de ces deux peuples-là. Et quand on parle, quand il dit dans le texte, « Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël », il n'est pas en train de dire tous les Juifs. Il est en train de dire tous les élus, à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, il est parfaitement clair que ce passage parle des élus. Ce sont les élus du peuple juif et les élus des gentils. Voyez-vous, tout à l'heure, on parlait du passage, on va aller le lire. Romains 9, versets 3 à 8. Alors ici, dans le contexte, c'est Paul qui parle. Et il est en train de dire qu'il est très, très, très attristé de voir que l'ensemble du peuple juif n'ont pas reconnu Christ à sa venue. Il dit, « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Alors il est en train de dire, « Les Juifs, je suis très désolé, ils ne suivent pas le Seigneur. » Il dit qu'ils sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ. Il fallait que le Christ soit un juif. Et qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Amen. Et dans le verset 6, il dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Alors là, il faut réfléchir à ce qu'il est en train de dire. Tous ceux qui se disent juifs ne sont pas nécessairement l'Israël de Dieu. Ils sont des Israélites, mais ils n'ont pas nécessairement reçu la grâce de Dieu. Et dans le verset 7, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Ils sont de la postérité d'Abraham dans le sens physique. Mais ils ne sont pas la postérité d'Abraham dans le sens spirituel. Mais il est dit en Israël, qui sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu. Il est en train de parler des Juifs, il dit que ce n'est pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais que ce sont des enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Et on avait vu au cours des semaines précédentes, c'est qui la postérité d'Abraham? Ça dit dans Galates, la postérité d'Abraham, c'est Christ. Ceux qui étaient en Christ reçoivent les bénédictions qui avaient été promises à Abraham, et non pas la descendance physique, les Juifs. Un autre verset, 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 22. « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Voyez-vous, le mot « tous », si on le prend dans son sens large, dans son sens absolu, on dirait « comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. » On sera en train de dire que c'est l'ensemble des hommes qui seraient sauvés. Ça ne peut pas être ça. Le contexte indique clairement que ce sont ceux qui sont en Christ qui revivront, parce que ça dit « de même aussi tous revivront en Christ ». S'ils ne sont pas en Christ, ils ne revivront pas. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Le contexte, quand on parle du mot « analogie de la foi », c'est qu'on ne peut pas prendre un verset et le tirer hors de son contexte et lui faire dire ce qu'on aimerait bien qu'il veuille dire. Il faut regarder le contexte immédiat, il faut regarder l'analogie de la foi, ça veut dire qu'il faut regarder l'ensemble de ce que les Écritures enseignent sur le même sujet. Et les Écritures ne peuvent pas se contredire. Alors, il faut absolument trouver une façon d'harmoniser, parce que si les Écritures ne se contredisent pas, quelque part, il faut l'expliquer. Alors, le contexte de l'analogie et l'analogie de la foi nous montre qu'il est mort pour tout son peuple, toutes ses brebis, toute son Église et tous ses fils. Et là, on pourrait aller chercher une multitude de versets où les Écritures disent que Christ est mort pour son peuple, pour ses brebis, pour son Église, pour ses fils. Alors, quand on dit pour son Église, c'est pas le monde entier. C'est ceux qui étaient en Christ qui ont été choisis par Dieu le Père de toute éternité. 1 Timothée 2, 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si Dieu voulait vraiment le salut de tous les hommes, ils seraient tous sauvés. Le principe de l'analogie de la foi nous apprend qu'il s'agit ici des hommes de toute catégorie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du salut, il y aurait des rois, des hommes de toute race, des hommes de toute classe sociale, de toute langue, et incluant évidemment les gentils, et non pas exclusivement les juifs, parce que les juifs avaient cette attitude-là de croire qu'ils étaient les seuls. 1 Timothée 2, 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. C'est sûr ici que si on tient compte encore une fois du principe de l'analogie de la foi, le « tous » qui est ici, qui s'est donné en rançon pour tous, ça fait très certainement référence aux Juifs et aux gentils élus de toute époque et de tout temps. 1 Timothée 4, 10. C'est vrai qu'il y a des versets, quand on lirait à première vue, ils ont l'air vouloir dire, regardez, 1 Timothée 4, 10, ça en est un. Que beaucoup de, quand tu regardes les commentaires, beaucoup de gens ont de la difficulté à l'expliquer. Nous travaillons, en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Alors, ça pose un problème ici, là. Sauveur de tous les hommes. Le mot « sauveur » peut prendre différentes significations selon le contexte. Il est parfois utilisé dans le sens de « préservateur » et de « sustentateur » de tous les hommes. Donc, Dieu préserve les païens en vie par sa grâce commune et par sa providence. Dans ce verset, nous apprenons que Dieu le Père le fait non seulement pour les païens en général, mais qu'il le fait de façon particulière pour ses élus. Parce que s'il est le sauveur de tous les hommes, pourquoi il mentionnerait tout de suite après principalement de décroyants? C'est comme... C'est. Alors ici, le mot, dans le contexte, c'est vraiment, quand tu regardes « soter » dans le grec, ça, des fois ça veut dire « sauveur » dans le sens du salut éternel, parfois ça veut dire « préservateur ». Alors, Dieu préserve les hommes en vie par sa providence, ce qu'il dit. Il est le sauveur de tous les hommes, dans le sens qu'il est le préservateur, le sustentateur de toute la création, et d'une façon particulière pour les croyants. Alors, il ne fait pas attention juste à l'ensemble de l'humanité, il fait attention, une attention particulière aux saints. Tite 2, versets 11 et 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alors ici, la manifestation du salut par Christ a été manifestée à tous les hommes, dans le sens que l'ouverture, c'est plus que les Juifs, c'est l'ensemble des hommes en général. Hébreux 2:9, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Encore, certaines versions ont ajouté, après tous, pour supposément la compréhension, ils ont rajouté les hommes. Alors, si tu prends le texte qu'on vient de lire, il souffrit la mort, mais dans l'original, les hommes n'est pas là. Alors, ça semble vouloir dire, il souffrit la mort pour tous les hommes. J'en ai vu des versions qui ont traduit ça comme ça. Alors, si tu rajoutes des mots aux Saintes Écritures, tu peux par le fait même ajouter des fausses doctrines. Alors, certaines versions ont ajouté les mots les hommes après la mort pour tous. L'ajout de ces mots est arbitraire et amène une grande confusion. Le texte grec aurait pu se traduire « Il a souffert toutes les sortes de morts », c'est-à-dire spirituelles, corporelles, éternelles. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Oui, ça a vraiment l'air de dire que tous les hommes arrivent à la repentance. Si tu prends une attention particulière dans la lecture attentive du verset, alors la clé d'interprétation est dans le verset même. Se trouve dans les mots « envers vous ». Voyez-vous quand ça dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous ». Et le contexte de 2 Pierre, il parle à des chrétiens. Il parle à des régénérés. Alors, il dit que le Seigneur use de patience envers les croyants parce qu'il ne veut pas qu'aucun des croyants périsse et il laisse faire la méchanceté des hommes jusqu'à ce que l'ensemble des pierres vivantes soient ajoutées à son Église. Alors, c'est bien important. La clé d'interprétation de ce verset se trouve dans les mots « envers vous » de ce verset et dans le verset précédent, le verset 8, car celui-ci précise à qui s'adresse ce passage, les bien-aimés. Si on lit le verset 8, « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. » Voyez-vous, tu as deux endroits, un à l'intérieur même du verset, un autre le verset après. Souvent, l'explication des versets est dans leur contexte, avant, immédiat, et il faut tenir compte de l'ensemble de l'analogie des Écritures. Donc, on a vu beaucoup de versets où on utilise le mot « tous » et le mot « tout », mais pas dans un sens nécessairement universel. On va regarder maintenant des textes qui utilisent le mot « monde ». Jean 1, verset 29. Le lendemain, ici on voit Jean-Baptiste, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est le péché qui lui est imputé, comme on voit dans Ésaïe 56, verset 6 et verset 12. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de qui, de tous les hommes? De nous tous. Ça parle des croyants. C'est pourquoi, dans le verset 12, je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Pas de tous les hommes, de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Jean 3,16, mais ça c'est le verset classique. Les gens vont dire que si tu crois à la doctrine de la rédemption particulière, là, ils vont t'en... Ah, ben Jean 3,16, ouais. Faut que tu le comprennes ce qu'il veut dire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le contexte de Jean, chapitre 3, nous montre que le sens est qu'il a aussi aimé les gentils, non seulement les juifs. J'ai connu un pasteur qui venait dans une conférence doctrine de la Bible aux États-Unis. Il avait fait un travail monumental sur ce verset-là pour expliquer le sens du mot « monde » en regardant le contexte immédiat de tout le chapitre 3, le raisonnement qu'il y a en arrière du chapitre 3. Si on ne fait pas ça et qu'on prend le verset et on le tire de son contexte, on lui fait dire des choses que le texte ne nous dit pas si on ne tient pas compte du contexte. La grosse majorité des erreurs de théologie viennent du fait que les gens prennent un verset hors contexte. Regarde pas ce qui a été dit avant ou après. Regarde pas l'ensemble de ce que les Écritures enseignent sur le même sujet. Et là, ça crée des hérésies, tout simplement. Jean 4, verset 42. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Comme dans Jean 3,16, le monde dans ce contexte, c'est l'ensemble des élus, des juifs et des gentils. Comme je vous ai dit tantôt, c'est des explications très, 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 très brèves et très sommaires sur l'ensemble de ces versets-là. Si quelqu'un a un problème particulier avec un verset qui veut absolument que ça veuille dire universel, ben, il existe des excellents outils qui peuvent beaucoup vous aider à développer votre raisonnement et votre pensée là-dessus. Alors, des fois, avant de dire que la Bible dit ça, parce que tu l'as lu à une place, fais attention, parce qu'elle dit d'autres choses ailleurs aussi. Jean 6, verset 51. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Et... si vous allez dans le verset précédent, verset 50, l'explication se trouve là. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Qu'est-ce que ça veut dire, Jésus se comparait à du pain? Qu'est-ce que ça veut dire manger? Est-ce que ça veut dire prendre une hostie à la messe le dimanche? Ça veut dire prendre toute l'histoire de Christ, son identité, sa personne, ce qu'il a fait sur la terre, qu'on a parlé tout à l'heure, qui a pris notre châtiment à notre place, qui a accompli la loi à notre place, manger Christ, comme ça dit, c'est ici le pain qui descend du ciel, il parle de lui, afin que celui qui en mange, alors faut que tu le manges. Manger, ça veut dire, quand on prend de la nourriture, on la mange, on la transforme en nous-mêmes. Elle se désintègre et elle devient nous-mêmes, elle devient vie à l'intérieur de nous. Et ici, il parle de la même réalité, mais dans un sens spirituel. Alors, dans le verset 51, ça dit, « Je donnerai ma vie pour le monde, pour la vie du monde. » Dans le verset 50, il dit, « C'est ici le pain qui descend du monde afin que celui qui en mange, c'est celui qui en mange qui va hériter de ce qu'il promet. » Et non pas tout le monde, voyez-vous. Les explications sont souvent dans le verset précédent, ou même des fois dans le verset lui-même ou dans le verset après. Et souvent dans le contexte un petit peu plus large, Jean 3,16, c'est vraiment tout le chapitre 3. Quand tu regardes le développement de la pensée de l'auteur à partir du début et que tu te rends jusqu'à la fin, tu vois très bien que ça ne peut pas vouloir dire « salut de tous les hommes ». 2 Corinthiens 5,19 « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Voyez-vous? À première vue, ça a l'air à vouloir dire qu'il réconciliait l'ensemble de l'humanité avec lui-même. « En n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Encore une fois, l'interprétation se trouve dans le contexte immédiat. Les mots « nous » du verset précédent, et ça parle des élus. Quand on regarde le verset 18, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Un verset qui semble vouloir dire tout le monde, puis après ça, il parle de nous. Puis dans le contexte de 2 Corinthiens, il parle à des croyants. 1 Jean 2, 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, mais non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Dans les Écritures, le mot « monde » a plusieurs sens. Il faut absolument déterminer dans quel sens la Bible l'utilise. Il arrive que le mot « monde » ait un sens limité, pouvant signifier, par exemple, un grand nombre de personnes, une majorité de leurs docteurs. On pourrait trouver des endroits où le mot « monde » est utilisé pour, dans le sens de la majorité de leurs docteurs. On peut parler d'une congrégation, donc d'un assez grand groupe de personnes, toute la synagogue et parfois quelques-uns seulement. Alors, si on prend le verset 1 de 1 Jean 2, 2, mais juste le verset qui précède, il va nous éclairer. « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » Le troisième point qu'on va regarder, c'est les textes qui utilisent les mots « perte » et « périra ». Romains 14, verset 15, par exemple, « Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. » C'est intéressant parce que dans les versions anglophones, quand vous prenez une King James, le mot « la perte de celui pour lequel Christ est mort », c'est « destroy ». Alors, il y en a qui sont troublés par le verset, parce que ça semble dire que par notre comportement envers un frère plus faible dans la foi, on peut amener sa destruction. Mais ça veut très certainement pas dire destruction dans le sens de perte de ton salut. Le mot « perte », qui est en anglais, dans les versions anglaises, qui est traduit « destroy », dans ce verset, signifie que nous pouvons, par notre manque d'amour, faire perdre la paix à notre frère dans la foi, car Dieu seul peut détruire le corps et l'âme, comme on voit dans Matthieu 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Voyez-vous, Romains 14, quand on le regarde dans son contexte, ça parle qu'il y a des chrétiens forts et qu'il y a des chrétiens faibles. Il y a certains chrétiens qui avaient des problèmes avec les aliments, ils ne mangeaient pas de viande, qui avaient été dédiés aux idoles, où il y avait d'autres problèmes de ce style-là, les fêtes, qui avaient gardé certains respects de certaines fêtes des Juifs. Et Paul, il dit, si tu vois ton frère qui est plus faible que toi et qui fait une chose que... si toi, tu fais la chose pour laquelle lui dit qu'il y a un problème avec ça, par exemple, manger de la viande, Paul, il dit, il n'y a pas de problème de manger de la viande aux idoles, parce que toi, tu ne considères pas que tu manges de la viande qui a été possédée par le démon. Là. Tu dis tout simplement, c'est de la viande, puis point final. C'est le frère fort. Il parle du frère faible. Celui qui pense que, à cause que ça a été dédié à des idoles, qu'il n'a pas le droit d'en manger. Qu'est-ce que Paul dit comme solution à ça? Il dit, si tu es avec un frère qui est faible et que ça l'offense que toi, tu manges de la viande qui a été sacrifiée aux idoles, mange-en pas. Voyez-vous, l'amour, c'est respecter quelqu'un. Tu aurais le droit d'en manger, puis dire, ben là, lui, c'est parce qu'il ne comprend pas. Là. Mais pas ça que Paul dit de faire. Respecter les autres quand ils ont un point qu'ils n'ont pas vraiment compris. Mais pour eux, parce que Paul, il dit aussi, pour eux, ils le font pour honorer le Seigneur. Il dit, oublie pas ça. Ils le font pour honorer le Seigneur, puis tu n'as pas d'affaire à le juger à cause qu'il ne fait pas la même chose que toi. Mais ce qu'il dit, c'est prive-toi de ton droit pour ne pas l'offenser. Voyez-vous? 1 Corinthiens 8, verset 11. Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Le contexte nous parle de frères faibles dans la foi. Il est possible que nous puissions troubler sa paix, mais non pas que son âme périsse. Parce que quand on parle, le faible périra par ta connaissance, c'est pas qu'il va périr, puis c'est qu'il va perdre sa paix. Si j'ai un frère qui ne mange pas, Moi, j'ai un cas qui m'est réellement arrivé. Connaissant un frère qui, à cause de sa lecture de l'Ancien Testament, ne voulait pas manger de porc. Moi, je recevais chez nous le dimanche, je le recevais chez nous. Moi, le porc, j'aime ça. Mais à cause du fait que je savais que lui, pour lui, il ne voulait pas en manger, on n'en faisait tout simplement pas. Alors, j'appliquais le conseil que Paul me disait, que j'aurais eu le droit d'en manger, mais par respect pour lui, parce que pour lui, c'était comme une occasion de chute. Il le faisait pour honorer le Seigneur, mais moi aussi, je le faisais pour honorer le Seigneur. Je n'en mangeais pas pour ne pas l'offenser. Alors, c'est ça un peu l'histoire. 2 Pierre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Le problème de 2 Pierre 2, c'est que c'est en train de dire qu'il y a des faux prophètes qui ont renié le maître, mais ils disent qu'il les a rachetés. S'il les a rachetés, il serait sauvé. Alors, le mot « racheté » dans le sens-là, le mot grec utilisé pour « maître » dans ce verset-là, c'est le mot « despotès ». Et ça parle de Dieu le Père et non pas de Christ. Il s'agit de leur rachat temporel. Quand ils ont été sortis d'Égypte, on a vu que tous ceux qui ont sorti d'Égypte n'étaient pas nécessairement tous des véritables croyants, comme on a entendu récemment dans notre sermon du dimanche dans Hébreux. Il y en a deux sur 600 000, il y en a 600 000 qui ont tourné 40 ans dans le désert, puis il y en a deux qui ont sorti, Caleb et Josué. Alors, c'était fort probablement que dans l'ensemble du peuple juif, il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas des véritables croyants, parce que le Seigneur parle d'eux comme des 40 ans qui ont vécu dans le désert, comme étant 40 ans de désobéissance et 40 ans d'incrédulité. Est-ce qu'on peut qualifier quelqu'un de croyant alors qu'il a vécu 40 ans dans l'incrédulité? La réponse est facile. Exode 15, verset 16, « La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. » Alors, il faut des fois aller fouiller un peu le sens des mots dans le grec, des fois pour comprendre que le verset ne va pas en contradiction avec d'autres passages de la Bible, mais qu'il s'explique, il s'harmonise si on prend le temps d'étudier un peu plus en profondeur. Quatrième point qu'on va regarder, c'est la nature et les propriétés de la rédemption. Alors, la rédemption de Christ, c'est très certainement en harmonie avec l'ensemble des perfections de Christ. En harmonie avec sa grâce, en harmonie avec sa miséricorde, en harmonie avec sa sagesse, sa justice, sa vérité, sa sainteté, sa gloire. Et on pourrait prendre l'ensemble de chacun de ses attributs. Et c'est sûr que la rédemption, ça rentre en parfaite harmonie avec chacun des attributs de Dieu. Autre chose, autre propriété, c'est une œuvre du Créateur uniquement. Le salut vient de l'Éternel. En anglais, j'aime beaucoup. Salvation is of the Lord. C'est clair. L'homme ne pouvait pas payer le prix de son rachat et il était complètement dépravé et impotent. Un homme qui est dépravé, qui est impotent, ça veut dire qu'il n'était pas capable de, par sa propre force, de vouloir se repentir et devenir à Jésus. Il fallait qu'il soit d'abord régénéré par l'Esprit de Dieu. Parce que quelqu'un qui n'est pas régénéré ne peut pas se repentir de par lui-même. L'impotence, ça veut dire que tu es incapable. Et autre caractéristique de la rédemption, c'est une œuvre de Christ. Éphésiens 1, verset 7. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Aussi, Apocalypse chapitre 5, verset 9, nous en parle comme une œuvre spéciale et particulière. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes, voyez-vous, ça ne dit pas tous les hommes, des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Alors le Seigneur, il dit que ça se peut pas qu'il y ait une langue qui était sur la terre, qui n'ait pas eu des élus. Ça se peut pas qu'il y ait de race, ça se peut pas qu'il y ait de classe sociale. Le Seigneur est allé chercher du monde dans tout ce monde-là. Tribu, langue, peuple, nation. Et c'est une œuvre aussi qui est pleine, complète et suffisante. Cette œuvre comprend la justification, le pardon des péchés, l'adoption, la vie éternelle pour tous ses élus. Et, autre caractéristique, c'est une œuvre éternelle. Alors, quand le Seigneur, Dieu le Père, a pris l'ensemble des hommes à qui il voulait accorder le salut, les a placés en Christ, quand Christ est venu, c'est uniquement leur péché qui a payé, ce qu'on appelle la rédemption particulière. Et ceux que le Saint-Esprit a rachetés, c'est les mêmes que le peuple que le Père a choisi, pour lesquels le Dieu le Fils a racheté les péchés, et les mêmes qui les a régénérés. Et il dit que ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a rachetés et ceux qu'il a régénérés, c'est les mêmes. Et non seulement c'est les mêmes, mais il va les emmener jusqu'à ce qu'il a commencé, il va le terminer. Alors, c'est pour ça que j'ai la conviction très profonde que la perte du salut, c'est une fausse doctrine que je pourrais démontrer avec une grande facilité si on pouvait m'en donner le temps et l'occasion. Alors, quelqu'un qui prêche ça, c'est qu'il prêche, il remet en question le salut de Dieu, il remet en question la nature du salut de Dieu, et il y a une multitude de versets qui pour démontrer que c'est une chose fausse de prêcher une telle chose. Il y a certains versets, comme exactement, comme ceux avec la rédemption qui a l'air universel, il y a certains versets qui semblent vouloir dire ça, mais encore là, ils s'harmonisent, et moi, je trouve que prêcher ça, c'est d'amener les gens dans la confusion et leur faire perdre la joie de leur salut. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire du texte de celui de qu'on vient de voir aujourd'hui, de l'ensemble de ces textes-là? Rappelons-nous toujours que les saintes Écritures sont parfaites. Les pseudo ou apparentes contradictions peuvent et doivent toujours s'expliquer et s'harmoniser avec l'ensemble. Ça, c'est un principe, il faut se rentrer ça dans la tête, il faut se le rentrer d'aplomb, puis cogner sur le clou souvent. Les Écritures sont parfaites et ils ne se contredisent pas. Il est vrai que certains versets semblent se contredire, mais si tu te donnes la peine d'étudier en profondeur, en étudiant les contextes immédiats, les contextes du livre, les contextes de l'ensemble des enseignements des Écritures, l'analogie des Écritures, tu vas voir que ça ne se contredit pas, ça s'explique et ça s'harmonise. Deuxième application, je dirais, connaissons bien les doctrines essentielles. La doctrine du salut, ce n'est pas une doctrine essentielle, je me demande bien c'est quoi. La divinité de Jésus-Christ, c'est une doctrine essentielle. Il y a plusieurs doctrines essentielles et c'est surprenant de voir le nombre de chrétiens qui, parfois, après des années de vie chrétienne, seraient même pas capables de défendre certains de ces points-là. Ça nous indique une chose, c'est que nos relations avec les Saintes Écritures sont parfois pas assez enracinées. On n'est pas assez amoureux des Écritures, on n'est pas assez attaché à elles. Et c'est une erreur, et ça va être une erreur d'autant plus grave dans l'avenir, avec l'apostasie qui est déjà en route. Il va falloir s'attacher aux Écritures, il va falloir les aimer plus que jamais, il va falloir connaître nos doctrines plus que jamais, il va falloir être capable de les défendre, sinon on va se laisser entraîner dans le grand courant de l'apostasie, parce que les Écritures, c'est la clé de demeurer fidèle au Seigneur, ça c'est certain. Alors, pour la gloire de Dieu, Amen.
Amen.